Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Théo. Ça va, vous allez bien?
Ça y est, j'ai mon micro. Ça va.
Avec ce beau temps. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, c'est un spécial Pâques. Parce que c'est lundi prochain, Pâques, déjà.
Déjà.
Donc, Pâques, c'est un moment idéal hein, pour se retrouver autour. Voilà. J'entends pas bien. J'ai pas de retour. Non, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis. Pour se retrouver autour d'une table en famille. Hein. Une fois que les cloches sont passées. Hein, puisque en fait les cloches, les œufs, voilà. Donc, pourquoi pas faire quelque chose de simple, parce qu'il n'y a pas de raison. Ce soir, on vous propose une sélection gourmande, simple à réaliser et mais également de saison. Comme d'habitude. Alors, une idée d'entrée, de plat, puis un dessert sont à découvrir. On va se faire plaisir. Faites plaisir sans prise de tête. Voilà. Et on voit ensemble le menu que j'ai trouvé. Encore des recettes faciles à réaliser et puis surtout délicieuses. Alors, on va commencer déjà par des œufs de caille panés aux pignons de pain. Donc là, pour 18 pièces, vous aurez besoin d'une pincée de gros sel, d'un filet d'huile de maïs ou d'arachide. C'est pour le parfum. Hein,
d'accord.
C'est pour ça. Hein. On reste dans... Tournesol est un peu plus fort, donc on reste dans le maïs ou l'arachide. 18 œufs de caille, donc ce sont des petits œufs. Mmh. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et facile. 100 g de pignons de pain et 100 g de pain dur coupé en morceaux et qu'on fera de la chapelure avec. Côté matériel, on va avoir besoin d'une casserole, d'une poêle, d'un couteau, d'un mixeur et de 18 pics. Alors prenez plutôt des grands pics, hein, les cure-dents c'est un peu petit, il y a des pics à brochettes, à petites brochettes à dessert ou autre en bois, hein, c'est aussi bien, c'est sympa. On va l'accompagner d'un guacamole au petit pois. Pour ça, on aura besoin d'huile d'olive, de piment d'Espelette, de sel, de poivre, de 250 g de petits pois surgelés, de un demi jus d'orange, jus de citron, excusez-moi, de la menthe fraîche. Et ça, la menthe, vous en trouverez sur les marchés.
Déjà, on en trouve déjà.
Oui. Et ça commence à bien pointer son nez, là, avec le soleil et la pluie qu'on a eue. La menthe, dans les jardins, elle commence à bien pointer son nez. Au niveau matériel, tout simple, un presse-agrumes, un mixeur et un couteau. Pour le plat, j'ai choisi de vous partager ma recette du pâté de Pâques berrichon. On l'avait peut-être vu sous une autre forme, ce pâté de mémoire, peut-être pas. Non, c'est dans ma mémoire.
Ça me dit rien comme
autre
ça.
Chose. Non, c'était autre chose. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, du persil, du poivre, du sel, de la muscade en poudre. Ou si vous avez des noix de muscade, vous la râperez, hein, c'est pas bien grave. 150 g de viande hachée, donc du porc et veau, donc on mélangera les deux. Vous demandez à votre boucher de hacher, il le fera gentiment. Alors, prenez pas de la chair à saucisse parce que c'est pas du tout le même. Ou la chair à farcir, c'est pas du tout le même goût. Mélangez bien le porc et le veau, c'est plus sympa et meilleur au goût. On aura aussi besoin de 3 œufs. Au niveau matériel, un rouleau à pâtisserie, une cuillère en bois, un couteau, un pinceau, un petit bol, je l'ai oublié dans la liste, je viens d'y penser, et du papier de cuisson, une plaque allant au four et puis une casserole. Et puis, on finira notre dessert par un nid de Pâques meringue chocolat. Donc, c'est quelque chose de très simple. Encore une fois, Voilà, mais il y a une manipulation à faire.
Surtout la meringue, je crois, non ?
Non, c'est pas tant la meringue, c'est le montage.
D'accord.
Voilà. Mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir. C'est, voilà, je vais faire appel à votre créativité, on va dire, ce soir. Hein, vous voyez les nids, si vous ne savez pas comment faire un nid, bah, vous regardez bien dans la nature et on va s'inspirer de la nature, en fin de compte. Bien, pour ça, il nous faudra 600 grammes de chocolat noir.
60 ?
60. 600, c'est 10 fois plus.
C'est beaucoup.
Donc,
de nids.
C'est beaucoup. Donc, 60 grammes de chocolat noir, 150 grammes de crème liquide entière. Donc, choisissez plus trop 30%, parce que si vous prenez 15%, votre mousse au chocolat, parce qu'on va travailler une mousse au chocolat, ça ne sera pas du tout la même. Et on va travailler une sorte de ganache, donc ça ne sera pas du tout la même. Voilà, 30 grammes de lait entier, 75 grammes de sucre, 75 grammes de sucre glace, 150 grammes de chocolat noir. On va 75 grammes de blanc d'œuf. Les jaunes, bah, vous en servirez pour faire une crème anglaise, par exemple.
Ça correspond à combien d'œufs, 75 grammes de blanc ?
Grosso modo, à peu près 2, 3. 3, voilà.
3 petits, deux
c'est
gros.
Simple. De toute manière, quand vous faites une meringue, parce que là, on va parler de meringue, quand vous faites une meringue, c'est le poids de vos blancs d'œufs, en œufs doit être fois 2 en sucre. C'est-à-dire que si on a 75 grammes de blanc, comme je l'ai dit, on aura 75 grammes de sucre et, en poudre et 75 grammes de sucre de glace. Ça, c'est la recette
D'accord.
de base que j'avais déjà donnée il y a 15 jours, il me semble. Et puis, ben, quelques œufs de chocolat ou des dragées liqueurs. Vous savez, j'ai pas retrouvé le nom des œufs qui sont tout petits et puis
ils
ont de la liqueur.
C'est du sucre, il y a de la liqueur dedans.
Voilà, tout à fait. Donc, en forme d'œuf. Du vermicelle, alors choisissez plutôt dans les tons marron, noir, blanc. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre du rose dans un nid, bah, on met du rose dans un nid. Ça sera un nid de filles, on va dire. Non, parce que même si on est garçon, vous pouvez mettre du rose, voilà. Il n'y a pas de code couleur. Et au niveau du matériel, on aura besoin d'une marise, de deux poches. Alors, vous trouvez ça dans les magasins, hein, les poches, à usage unique. Donc, on ne remet pas d'appareil dedans, c'est mieux. Tout simplement pour les bactéries. Voilà, donc...
D'accord, toi, tu es pour les poches à usage unique.
Oui. Ouais. Alors, moi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, puisque je suis pâtissière de métier. J'ai travaillé avec des poches en tissu et qui étaient plastifiées, qu'on lavait.
C'est ça.
Sauf que il reste toujours.
Ouais. On n'arrive pas.
Il reste toujours des petites aspérités dans les coutures, dans les choses comme ça. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est plus facile. Je sais que c'est pas très écolo, mais pour moi, c'est plus facile et au niveau de l'hygiène, on est au top.
D'accord.
Voilà. Hein, surtout quand on fait de la crème ou des choses comme ça, les bactéries viennent souvent nous faire coucou. Donc, faut y aller gentiment. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous avez des poches ou alors, il existe des pistolets, mais je suis pas chaude parce qu'on peut rien mettre dedans. Voilà, moi je dis ça, c'est des espèces de tubes avec...
C'est ça, avec, comme des grosses seringues,
ouais,
c'est ça.
Oui, des grosses seringues. Le problème, c'est que quand tu as, par exemple, on va en avoir quand même pour au moins 6 personnes, ça fait une quantité puisque ça va doubler, quadrupler de volume.
Ouais.
Ta seringue, tu vas toujours la remplir tous les 4 matins. Donc, c'est pas le top. Maintenant, moi, je bosse avec des poches à usage unique. Ça coûte pas bien cher. Et au moins, je suis sûr que... Voilà. Et puis, on évite de se battre avec le trou parce qu'il y a une technique pour éviter que l'appareil que vous allez mettre dedans, quand on met la douille, il y a une technique qu'on utilise en pâtisserie pour éviter que l'appareil coule au moment où vous le remplissez.
Ah, faudra nous dire ça, parce que moi, ça m'est déjà arrivé.
Alors, pour les poches, je te parle...
Et du coup, c'est pour ça que je n'aime pas utiliser les poches.
Alors, pour les poches en tissu, parce qu'il y a un trou dedans,
oui,
automatiquement. Mais pour les poches en plastique, tu n'as pas besoin, puisque tu coupes ta poche au moment où tu vas t'en servir.
Oui, mais si tu veux mettre un petit truc au bout pour faire un joli dessin.
Eh ben, tu fais à l'extérieur. Tu la mets à l'extérieur et pas à l'intérieur.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Bon, je vous expliquerai
oui,
la technique. Tu me le rappelleras parce que je...
D'accord.
Mais voilà, je vous donnerai la petite technique. Deux techniques qui seront faciles à faire. Donc, le matériel. Une marise, deux poches, un bol, deux saladiers, un batteur fouet, un panier cuisson, une plaque allant au four, un fouet et puis une casserole. Alors, Nat, tu as des petites choses à nous dire sur la tradition de l'œuf de Pâques.
Alors, ce sera après la pause parce que Théo nous dit qu'il faut faire une pause. Donc, je vous expliquerai tout sur l'œuf de Pâques après la pause.
Eh bien, à tout de suite alors.
Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je veux te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semble fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer et j'apprends tous les jours. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi. C'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se
à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Ouais. Alors, Nat, tu vas nous parler de l'œuf de Pâques.
Alors, l'œuf de Pâques, c'est une tradition chrétienne qui consiste à décorer un œuf pour la fête de Pâques, ce dernier restant le plus souvent comestible. Faisant suite au carême, la consommation d'œufs est privilégiée pour consommer l'importante production pondue durant celle-ci. Alors, traditionnellement, il s'agit d'un œuf de poule cuit dur et coloré, mais de nos jours, il s'agit aussi d'un œuf en sucre ou en chocolat. En Belgique comme en France, c'est un cadeau traditionnel offert le matin du dimanche de Pâques. Dans le quart nord-est de la France, en Suisse, en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis, le symbole de Pâques est un lapin ou un lièvre. Dans les autres régions françaises et d'autres pays du monde, les cloches ont la même fonction. Et dans les pays de l'Est, on les colore et on les décore. La tradition de s'offrir des œufs au printemps remonte à l'Antiquité. Les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de renouveau. L'œuf est rattaché à Pâques chez les chrétiens, coptes, dès la fin du 5e siècle, peut-être en souvenir des œufs ardents dans lesquels furent torturés les martyrs ou de l'œuf rouge pondu par une poule impériale le jour de la naissance d'Alexandre Sévère en 208 avant Jésus-Christ. Alors traditionnellement, pour les orthodoxes, la décoration des œufs de Pâques commence le jeudi saint. Le premier œuf peint en rouge vif doit avoir été pondu le jeudi saint et il est conservé comme porte-bonheur. Les suivants sont également peints en rouge ou décorés de motifs vifs. Il est de tradition d'en échanger avec ses proches le jour de Pâques en se saluant par l'invocation « Christ est ressuscité ». Pour le repas de Pâques, on les consomme après avoir brisé la coquille de son œuf contre l'œuf de son voisin de table. Je ne savais pas. En France, bien qu'il soit souvent dit que l'origine des œufs de Pâques était liée à l'interdiction de la consommation des œufs pendant le carême, les premiers textes qui parlent de cette tradition concernent l'Alsace et remontent au XVe siècle, époque à laquelle le jeûne du carême catholique avait été considérablement allégé. Cette tradition de conserver les œufs pondus pendant le carême, puis de les décorer avant de les offrir à Pâques, se développe surtout dans les cours royales, avant de se diffuser dans les familles bourgeoises. Au cours de la première révolution industrielle, se met en place un processus qui associe cadeaux et commerce, les Allemands ayant l'idée, à la fin du 19e siècle, de remplacer les œufs de poule par des œufs au chocolat. Donc tout vient des Allemands. Dès la Renaissance, l'usage d'offrir des œufs précieux apparut dans les cours royales. Édouard Ier d'Angleterre faisait décorer quelques centaines d'œufs à la feuille d'or pour les distribuer à sa famille. On a dit que Louis XIV faisait bénir de grandes corbeilles d'œufs dorés qu'il remettait aux courtisans et à son domestique également. La tradition aurait fait du roi le destinataire du plus gros œuf du royaume. À l'époque de Louis XV, la fille de celui-ci reçut en cadeau des œufs peints par Vatreau et Lancret. Et à partir du XVIIIe siècle, les œufs frais sont vidés pour les remplir de chocolat liquide. En 1847, les frères Fry inventent un mélange sucre, beurre de cacao, chocolat en poudre qui permet d'obtenir une pâte molle que l'on peut verser dans les moules. Le chocolat qui n'était jusque-là consommé que comme boisson peut désormais être croqué et façonné sous de multiples formes par les confiseurs. La démocratisation du chocolat date en France de la fin du Second Empire avec le développement du moulage. Le plus ancien moule attesté était un moule en fer blanc étamé de 1870 réalisé par la maison Létang et Rémy à Paris. À l'œuf est associée la poule, qu'on trouve maintenant sous forme de statuettes en chocolat. Les confiseries peuvent aussi représenter d'autres sujets comme les lapins. Et à la fin du XIXe siècle, à la cour royale de Russie, Nicolas II offrait pour Pâques à son épouse et à sa mère des œufs de Fabergé, pièces d'orfèvrerie en or et pierres précieuses considérées comme des chefs-d'œuvre de ce joaillier.
Merci Nathalie pour cette belle histoire. Vous voyez que il y en a pour tous les goûts. Hein.
Et pour toutes les bourses.
Moi, je lance un appel, moi, neuf de Fabergé. Oui. Ça me plairait bien. Voilà, franchement, ça me plairait bien. Alors, on va commencer par l'entrée. Vous allez voir, c'est assez simple. Et son accompagnement, à savoir les œufs de caille panés au pignon de pain, accompagnés du guacamole au petit pois. Alors, pour cette recette, vous avez donc pour 18 pièces, hein, donc on est 6, ça fait 3 par personne, c'est correct.
C'est une entrée.
C'est
hein.
une entrée, et surtout qu'on a, on a la petite sauce qui va bien avec. On a besoin d'une pincée de gros sel, d'un filet d'huile de maïs.
Parce que l'huile de maïs, je ne connais pas.
Ah, l'huile de maïs, tu le trouves en magasin aussi. Hein.
En grande surface.
Ah oui, ah, tu d'accord. peux trouver. L'arachide, un maïs, tournesol, c'est dans le même rayon. Hein.
Okay.
C'est pas spécifique. Oui, tu en trouves partout. Hein.
D'accord.
Tu en trouves partout. Enfin, à moins que ça a changé, mais je ne pense pas. 18 œufs de caille, donc là, c'est rayon
frais.
Frais. en 100 g de pignon de pain, 100 g de pain dur coupé en morceaux, et ainsi qu'une casserole, une poêle, un couteau, un mixeur et 18 pics. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'était des pics à brochette. On aura besoin de 15 minutes pour la préparation et 4 minutes de cuisson.
C'est rapide.
C'est des œufs de caille, on est bien d'accord.
Oui, c'est tout petit, hein.
Alors, dans un premier temps, on va faire cuire les pignons qui sont les pignons de pain à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu dorés. Et puis, on va les saupoudrer de gros sel. Et puis, on va les laisser refroidir. C'est vraiment l'histoire de les colorer un petit peu et de les saler avec le gros sel. Donc, c'est vraiment une pincée. Hein. On ne met pas non plus la mer salée dedans. Et puis, on réserve et on va laisser refroidir. Après, on va donc poursuivre. On va porter à ébullition dans une casserole de l'eau, bien évidemment. Une fois que l'eau frémit, on place. Alors moi j'aime bien prendre un écumoire, oui, de mettre mes œufs dedans et de les mettre délicatement dans l'eau. Et ça, on va les laisser cuire que 4 minutes. Vraiment, c'est très rapide. Donc, et une fois qu'elles sont cuites, les œufs de caille, on va les égoutter et on les plonge dans l'eau froide. Hein, donc de façon à stopper la cuisson. Et puis on laisse refroidir. On les écaille pas de suite. Pendant ce temps-là, vous allez préparer la chapelure. Donc pour cela, vous allez mixer très finement vos pignons de pain que vous avez fait griller auparavant et qui sont froids. Important que ce soit froid. Et vous allez en même temps, le pain dur, vous allez le mettre dans le mixeur. Voilà, vous mélangez bien les belles proportions. Vous allez obtenir une poudre ayant la même consistance qu'une chapelure. Hein, donc, alors si vous aimez plus ou moins fine, vous le faites plus,
oui,
ou moins
ça,
fort.
Mmh.
Voilà, et c'est important que les pignons et que le pain, si vous l'avez fait griller, soient vraiment tous les deux froids. Sinon, ça fait une pâte,
ouais,
dans le mixeur et c'est pas génial. Voilà, donc on va aussi écailler les œufs de caille. Donc, vous allez gentiment, hein, faites ça faire par les enfants.
Les enfants, ouais, ils aimeront bien ça.
Alors, on tape un petit peu et puis on écaille gentiment. Comme vous les avez mis dans l'eau froide tout de suite, c'est plus facile à écailler. Et puis, on va les, une fois que toutes les coquilles ont été enlevées et ça s'enlève très facilement, on va les piquer. Chaque œuf de caille va être piqué par une broche.
C'est un œuf, une broche.
Voilà.
D'accord.
Un œuf, un pic. Donc, et puis, une fois que vous avez bien piqué, donc il faut rentrer le pic à la moitié de l'œuf. C'est pas, on ne le rentre pas entièrement. Ça ne sert à rien. On le rentre à la moitié, comme
ah oui,
si ça faisait une sucette.
Ah, d'accord, ok.
D'accord, donc à la moitié de l'œuf. Donc, voilà, c'est pas, il ne faut pas faire dépasser l'autre pic.
Dans le sens de la hauteur ?
Oui,
oui,
c'est mieux. C'est mieux parce que ne serait-ce que après vous allez passer dans l'huile, donc l'huile vous la mettez dans un petit bol et puis vous, donc on le passe dans l'huile et après on passe dans la préparation chapelure et pignon et vous laissez alors moi j'aime bien présenter ça sur une orange coupée en deux et que j'ai mis en papier aluminium. Tu vois, je pique mon
pic. C'est pour la présentation.
Ouais, pour la présentation. Comme ça, ça fait... alors, pas besoin de le mettre au frigo, parce que si vous le mettez au frigo, l'huile...
Elle va figer.
Elle va figer, ouais. Ça ne va pas être terrible. Vous pouvez le mettre au frigo, mais voilà. Donc, vous le laissez...
Enfin, c'est quelque chose qui peut être préparé aussi tellement rapide, tout de suite,
oui,
avant de manger.
Tout à fait.
Les œufs peuvent être cuits, mais le passage dans l'huile et dans la chapelure, ça peut se faire au dernier moment.
C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est que vous ayez un goût de pignon de pain et puis de chapelure. Si, en plus, vous avez mis un petit peu de pain aussi céréal, ça va faire un bon mélange. Voilà, donc n'hésitez pas à garder votre pain dur.
On peut
donc,
faire ça aussi pour l'apéro.
Oui, tout à fait.
Hein,
tout à fait. Ça, c'est... Et puis en une bouchée. Alors, ça se déguste avec un... Enfin, moi, je l'ai Vous pouvez le déguster avec une sauce tomate, avec ce que vous voulez. Moi, là, j'ai choisi un guacamole au petit pois. Parce que c'est quelque chose que, bah, c'est vert, c'est joli, c'est coloré. Et puis, voilà, ça fait un petit peu le nid de Pâques. Si vous mettez ça dans une coupelle, un petit peu en rond, ça peut être sympa. Alors, pour cela, il vous faudra de l'huile d'olive, du piment d'Espelette. Du sel, du poivre, 250 grammes de petits pois surgelés et puis un demi jus de citron.
C'est important, surgelé ?
Si vous les avez frais, c'est mieux.
Ouais.
C'est bien.
Mais surtout pas en boîte.
Non, mais
pas
en boîte.
C'est soit surgelé, soit frais.
Ouais,
d'accord.
C'est mieux. Ensuite, donc, de la menthe fraîche et puis un presse-agrumes, un mixeur et un couteau. Et là, on a besoin de 5 minutes de préparation. Donc, à l'aide de votre couteau, vous allez déjà ciseler votre menthe. Si vous n'arrivez pas à ciseler, vous prenez un ciseau. Hein, vous coupez grossièrement les feuilles. Mm-hmm. Hein, ciseler, c'est aussi avec un ciseau. Hein, ça vient de là. Hein.
Oui.
Donc, un couteau, c'est mieux. Moi, je préfère. Mais voilà. Et l'idée, c'est de les mettre, que ça fasse des petites lamelles aussi. Hein. Voilà. Vous pressez votre citron et vous allez mixer. Donc, il n'y a pas de cuisson.
Ah, d'accord. Il faut les faire décongeler quand même.
Non, je n'ai pas parlé de décongeler.
Bah, c'est ça.
Non.
Ah, on les met dans le mixeur vraiment surgelé, sorti du congélateur.
Surgelé, ça va te faire une glace.
Oui, c'est ça.
Ça va te faire un sorbet
ouais, puis, au petit pois.
Au petit pois.
Qui est, comme c'est un peu sucré, du coup, ça doit être bon.
Voilà. Enfin, c'est un salé sucré, mais tu vas avoir la menthe qui va arriver derrière. Puisqu'on va mixer les petits pois avec le jus d'orange, la menthe.
Jus de citron.
Jus de citron.
J'y tiens, hein, l'orange.
J'y tiens, ouais. Donc, mixer les petits pois, le jus de citron, la menthe, le sel et le poivre. Vous disposez ça une fois que c'est bien mixé, donc ça fait une crème hein, qui est fraîche, qui est vraiment froide.
Ouais.
Et vous mettez ça dans vos bols, dans vos ramequins. Vous mettez, avec l'aide d'une fourchette, vous faites des petits dessins style un nid, pour que ça représente les branchages. Vous mettez une pincée de piment d'Espelette. Vous présentez avec vos œufs. Et voilà, le tour est joué. Vous avez deux entrées en moins d'un quart d'heure qui sont faites.
Ouais, des copains qui débarquent à la maison, c'est vite fait.
Exactement, exactement. Ouais. C'est le truc auquel, voilà. Donc, c'est une belle entrée pour Pâques, je trouvais, ou pour d'autres occasions.
Ouais, carrément.
Voilà, vous pouvez faire ça, on l'a dit tout à l'heure, à l'apéro. C'est vite fait.
Je vais tester.
Ah oui, oui. Mais vas-y,
ouais,
teste.
Je vais tester ça. Prochain apéro, je teste.
Et ben voilà. Donc, on se retrouve ben, après ça. Ça nous a mis l'eau à la bouche.
Ouais,
mais on va prendre une pause avant la seconde partie de notre émission pour le plat. À tout de suite.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour notre plat, le pâté de Pâques, berrichon. Alors Nathalie, l'histoire de ce pâté, tu peux nous en dire un peu plus ?
Je vais essayer. Alors il s'agit, comme son nom l'indique, d'une spécialité berrichonne. C'est un pâté en croûte au veau et au porc, agrémenté d'œufs durs placés au milieu de la farce. Ainsi, les œufs se découvrent au fur et à mesure de la découpe en tranches. La première recette date de 1889, mais les berrichons savent-ils d'où vient ce plat qu'ils adorent ? Appelé aussi pâté berrichon, le pâté de Pâques semble avoir des origines lointaines et mal connues en Berry. La première évocation de la recette du pâté berrichon date donc de 1889 par un certain Jenny Touzin dans son livre de recettes intitulé « La sauce et la cuisine chez moi ». Non, chez soi d'ailleurs, la sauce et la cuisine chez soi. Il parle d'un plat composé de pâtes feuilletées, de chair et d'œufs. La recette est baptisée pâté de Pâques pour marquer la fin du jeûne de carême de 40 jours. Les œufs et la viande étaient interdits durant toute cette période d'abstinence. Les gens ne mangeaient que du poisson et des légumes et donc les œufs étaient stockés. Et les gens se retrouvaient avec beaucoup d'œufs, et c'est pour cela que Jenny Touzin a eu l'idée d'incorporer les œufs à la recette. De vives traditions en Touraine et en Poitou, en Poitou, c'est dur à dire, on en trouve de traces dans nos contrées sous l'appellation Goguenion ou Goguenioche. Et Kurnonski l'évoque dans l'entre-deux-guerres avec plus de précision et sous différentes variantes pour sa composition. En ces années 1930, les charcuteries de la Vienne commencent à en fabriquer en nombre. Parmi les nombreuses légendes narrées par nos aïeux sur le pâté de Pâques, en voici une qui ne manque pas de saveur. Si vous consommez un pâté fait avec des œufs pondus le vendredi saint, vous serez protégé pour un an des morsures de serpents. Pâques approchant à grands pas, je vous propose donc de réaliser un pâté de Pâques berrichon. Pour ceux qui ont des serpents chez eux, il faut que les œufs soient pondus le vendredi saint.
Voilà. Elle est mignonne cette légende, je trouve. Elle est très très mignonne. Merci Nathalie. Alors voyons ensemble cette délicieuse recette. Je vous en rappelle un peu les ingrédients. Il vous faudra donc une pâte feuilletée, du persil, du poivre, du sel, de la noix de muscade en poudre ou en noix râpée, 150 g de viande hachée, porc et veau, 3 œufs, un rouleau de pâtisserie, un rouleau à pâtisserie, c'est mieux, une cuillère en bois, un couteau, un pinceau, un papier cuisson, une plaque allant au four et une casserole. Pensez qu'il vous faudra à peu près compter 15 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Donc là, même si on a des potes qui arrivent au dernier moment, soit encore quelque chose de rapide.
Oui.
Alors pour commencer, on va déjà cuire les œufs et on va les cuire durs, c'est-à-dire 9 minutes. Donc je vous rappelle une petite règle, c'est les 3, 6, 9.
Oui.
Donc, pour 3 minutes, on va avoir des œufs à la coque. Pour les mollets, c'est 6. Et pour les œufs durs, c'est 9. Donc, 3, 6, 9, c'est la règle. Donc, on va les plonger donc 9 minutes dans l'eau frémissante, bien sûr. Une fois que les 9 minutes sont passées, on les retire de l'eau et on les plonge tout de suite dans l'eau froide. Comme les œufs de Pâques, pareil. Et puis, on les écaille et on les réserve. Alors moi, j'aime bien les écailler quand ils sont un peu chauds ou tièdes, comme ça. Et après, je les remets dans l'eau froide. Comme ça, on a plus de facilité à les écailler aussi et ils restent froids tout le temps.
D'accord.
Voilà, après, c'est comme vous voulez. Attention de ne pas vous brûler, mais
c'est ça.
Étant donné qu'ils sont plongés dans l'eau froide, la cuisson s'arrête et on a un œuf qui se tient beaucoup mieux et qui s'écaille plus facilement. Comme les œufs de caille. Alors ensuite, on va déballer donc notre pâte feuilletée, on va l'étaler et la passer légèrement au rouleau, mais vraiment léger. C'est l'histoire de dire, on l'a bien étalée et qu'elle soit pas trop épaisse non plus. Et puis dans un saladier, vous allez mélanger la viande, le persil et les épices, à savoir qu'on a dit la noix de muscade, donc vous mettez 2-3 pincées, du sel et du poivre. Et puis vous allez, avec cette viande, vous allez faire un boudin. Donc voilà, un petit cylindre de la forme de votre pâte et vous allez la mettre au milieu. Une fois que vos œufs sont bien froids, vous allez les couper en deux ou pas, c'est comme vous voulez, et vous les disposez sur la viande. D'accord, vous me suivez là-dessus?
Si on les coupe en deux, c'est dans le sens de la longueur?
Oui, c'est mieux. Dans le sens de la longueur, et puis vous allez appuyer dessus pour qu'ils puissent aller au milieu de votre viande. D'accord? Mm-hmm. Donc là, pour le fait, c'est tout à fait simple. Voilà. Alors, plus ou moins. Alors, il y a des pâtés berrichons où on les met au-dessus. Vous pouvez les mettre au-dessus. Il n'y a pas de problème, sauf que notre dessus de maintenant va être notre dessous. Mmh. D'accord ?
Oui.
Donc, vous pouvez aussi mettre d'abord sur votre pâte les œufs et après votre viande, puisqu'on va retourner. Donc, une fois que vous avez donc mis votre viande et vos œufs, vous allez refermer la pâte feuilletée sur le dessus. Hein, comme un petit peu une enveloppe, d'accord ? Donc on prend les deux parties extérieures de la longueur, on les rabat et on va prendre les parties les plus grandes dans la longueur pour les rabattre par-dessus comme une enveloppe. Il faut bien souder, donc vous allez souder avec, ou vous soudez, moi je soude avec de l'eau. Donc on prend un pinceau avec de l'eau et on soude à ce moment-là. Voilà, sans appuyer, ça ne sert à rien puisque c'est l'eau qui va faire la jointure et que ça soit bien hermétique. Et pour éviter qu'on voit le pliage, eh ben vous retournez votre pâté et vous le mettez sur la plaque avec la feuille de cuisson. Donc vous le retournez sur la feuille de cuisson et vous
le
glissez.
On le fait rouler du coup,
ouais,
parce
vous
que ça ne doit pas être évident à soulever, j'imagine qu'il faut le faire rouler.
Non, ça se roule facilement et puis après vous le faites glisser sur la plaque de cuisson. Une fois que vous avez fait ça, vous allez badigeonner. Donc du coup, alors après vous pouvez le marquer. Si vous reste un petit peu de pâte, vous pouvez faire des petites boules dessus avec des feuilles, des choses comme ça. Vous le mettez dessus toujours avec une soudure, avec de l'eau. Vous badigeonnez tout ça de jaune d'œuf. Hein, et puis ben, le blanc, ben, vous le gardez pour les meringues, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et puis, on va surtout, important de faire un trou au-dessus pour que la vapeur, elle puisse partir. Voilà, donc la cuisson, et faut pas qu'elle reste, faut pas que la viande reste dans son jus. Donc le mieux, c'est de faire des petits trous de droite et de gauche, vous en faites 2-3, ça suffit, et vous enfournez à 200 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Et une fois que c'est cuit, vous allez servir ça chaud ou tiède. Et alors, ou vous laissez les gens se servir et couper la part qu'ils veulent, ou vous les coupez et vous présentez ça sur un beau plat avec une jolie salade. Voilà, tout simplement. C'est tout bête, mais alors c'est super bon, vraiment. Alors vous pouvez rajouter une sauce, mais franchement ça vaut pas la peine parce que on a le veau qui est déjà bien et le gras un petit peu du porc, et ce mélange avec, si vous l'avez bien persillé et bien aromatisé avec les épices, c'est un vrai délice. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc notre plat, il est fait. Je te propose une pause et puis on passe au dessert après.
Hein? Tout à fait.
À tout de suite.
À tout de suite.
Salut, c'est Emma Peters sur Infini Radio.
À quoi tu penses quand tu me déshabilles, quand je tiens tes hanches? Et que ça part en frire, rodéo. À temps plein comme un CDI, je me sens bien dans ta peau. Est-ce que je suis dans ta tête aussi, bébé, joue la cello. Te mets pas la pression, nous deux c'est trop facile. Mais jamais je te laisserai béton. Garde la pêche, fais pas la gueule. Avoue, je suis trop fraîche pour rester seule. C'est différent, je le sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone. C'est différent, je le sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone. Mauvais caractère, mais toi tu m'intimides. Novembre Sagittaire, je m'en fous qu'on soit pas compatible. Je fais confiance à mon instinct. Je sais qu'au lit on sent bien que dans mes bras tu dors. Bien que tu craches sur mon parfum. Et si tu me mens, je veux jamais le savoir. Et si tu me manques, tu vas jamais le savoir. C'est différent, je le sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone. C'est différent, je le sentais pas comme tous ces bâtards. J'aime bien ton t-shirt blanc, j'aime bien tes tatous noirs. Je prendrai soin de toi comme j'ai pris soin de personne. Et si tu me crois pas, je te laisserai fouiller mon téléphone.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la dernière partie, enfin la troisième partie de notre émission, et on va faire des nids de Pâques. Alors pour ça, vous aurez besoin donc, alors c'est un beau dessert, donc et voilà, facile à faire. Il faut juste bien suivre les indications. Pour ça, vous aurez besoin de 60 g de chocolat noir, de 150 g de 150 g de crème liquide entière, de 30 g de lait entier, de 30 g de lait entier, 75 g de sucre en poudre, 75 g de sucre glace, 150 g de chocolat noir, 75 g de chocolat de blanc d'œuf, excusez-moi, et puis quelques œufs de Pâques et des dragées de liqueur, du vermicelle pour décorer. Au niveau matériel, on aura besoin d'une marise, de deux poches, d'un bol, de deux saladiers, d'un batteur et d'un panier, d'un papier cuisson, d'une plaque allant au four et d'un fouet et d'une casserole. Alors, j'ai Théo qui aimerait nous parler. Du coup, tu nous parles de la meringue ou pas ? Non, tu l'as plus ? Bon, bah, c'est pas grave. Alors, Nathalie, tu nous parles de la meringue, du coup,
allez,
ou pas ?
Allez, vite fait, je vous parle de la meringue. C'est donc une pâtisserie très légère et très fine, composée uniquement de mélange de blanc d'œuf et de sucre. C'est un peu d'acide, peut-être ajouté sous forme de citron. Des variantes existent, et en changeant les quantités et le type de sucre, mais surtout la façon de l'incorporer à la masse. On découvre une recette de neige sèche, c'est une meringue italienne, chez Lancelot de Casto en 1604, et une autre de biscuit de sucre en neige dans le pâtissier français François de la Varenne, pardon. Mais le nom de meringue apparaît en 1692 dans le livre de cuisine de François Massialo.
Merci Nat. Alors on verra tout à l'heure si on a le temps les différentes meringues, ça c'est le bonus. Ouais. Et alors je vais aller vite et à la fois essayer d'être assez compréhensible au niveau de l'explication. Comptez quand même pour ce dessert qu'il faudra 40 minutes de préparation parce que c'est un peu long, mmh. et 30 minutes de repos et une heure de cuisson. Ça c'est pour les meringues. Voilà. Et donc c'est un peu long, mais c'est pas et vous avez passé moins de temps sur l'entrée et le plat, donc le dessert sera un petit peu plus long. Vous pouvez aussi commencer la veille, ça sera pas plus mal. Donc on va commencer à mettre au congèle un saladier avec la crème pour que ce soit bien froid, puisqu'on va monter une chantilly.
Mais on met la crème dans le saladier avant de la mettre au congèle ?
Pas forcément, non. Tu mets la crème dans le congèle et puis le saladier. Et puis on va poursuivre par la meringue en mélangeant les deux sucres dans le bol, donc le sucre glace et le sucre en poudre. À l'aide du batteur, on va battre dans un premier temps avec un fouet les blancs neufs, en neige, hein. Et une fois qu'ils ont moussé, vous allez ajouter un tiers du sucre. Une fois que vous fouettez à vitesse moyenne, une fois que le sucre est bien incorporé, vous ajoutez le deuxième tiers de sucre et vous continuez à fouetter. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, ça va augmenter et vous ajouterez le dernier tiers de sucre en continuant à fouetter jusqu'à avoir une meringue bien lisse, bien brillante. Et pour voir si elle est bien prise, en fin de compte, ça fait un bec d'oiseau. Mmh. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre meringue dans la poche. Donc, voilà. Donc, vous vous munissez d'une poche avec une douille cannelée. Donc vous allez voir, ça fait des petits triangles sur la pointe. Et alors moi, ce que je fais, c'est que vous avez deux solutions. Ou vous coupez le bord le bout de la poche, vous mettez votre douille à l'intérieur. Le problème, c'est que les picots vont automatiquement piquer et percer. Vous risquez de percer votre poche. Ce qui est dommage. Donc ça risque de déborder au niveau des piqûres. Moi, je la mets à l'extérieur. C'est-à-dire que je coupe ma poche, je la mets et je remplis ma poche et je mets ma douille à l'extérieur, collée.
Mais elle ne va pas tenir.
Elle ne tient pas. Tu la tiens avec tes mains.
Ah,
tu
d'accord.
Tu la tiens avec tes mains. Oui. Comme ça... vous n'avez pas besoin d'aller la rechercher une fois que tout est parti. Voilà. Donc ça, c'est une première. Si vous la mettez à l'intérieur, donc vous avez coupé le bout de votre poche avant de mettre l'appareil, la meringue, vous, en fin de compte, vous prenez la poche et vous allez la rentrer une partie dans la douille que vous avez utilisée, d'accord, qui est à l'intérieur. D'accord ? Comme ça, en fin de compte, vous bouchez le trou avec la poche et vous pouvez remplir sans que ça parte dans l'autre sens. Mais comme vous avez fait une superbe meringue, ça ne partira pas.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà les deux techniques pour répondre à ta question, Nathalie.
Oui.
Donc, on va pocher des nids sur une plaque recouverte d'un papier. Donc, ayez la vision d'un nid. Hein, c'est surtout important pour que vous ayez la forme. Alors, moi, je commence par le milieu, d'accord ? Et je fais une torsade en rond et je fais déjà un premier plateau, d'accord ? Et après, je vais faire comme un escargot. D'accord. Et après, je vais mettre à peu près, donc les ronds, vous les faites de peu près de 7-10 cm, hein, que ça soit pas trop gros et pas trop petit. Et après, vous allez faire deux cercles, un ou deux cercles, dessus l'escargot que vous avez fait. Donc, vous faites un creux, en fin de compte.
C'est ça.
Et normalement, ça doit se tenir. Et là, après, vous enfournez à 90 degrés pendant une heure. Voilà, et les meringues doivent se décoller sans problème du papier de cuisson. Si vous les laissez trop longtemps, plus ou moins longtemps, elles risquent de cramer et de ne pas être aussi bonnes. Voilà, donc vous regardez. Si vos premières meringues au bout d'une heure se décollent et qu'on vous avez quelque chose qui se tienne, eh ben c'est que c'est bon et vous les sortez du four. Voilà. Et si vous voulez des meringues un petit peu plus croquantes, ben vous les laissez un petit peu plus longtemps, mais vous surveillez votre, même si c'est à 90 degrés, faut surveiller la cuisson. Quand les meringues elles sont froides, on va laisser fondre un petit peu de chocolat et on va le faire l'intérieur pour imperméabiliser le fond du chocolat. De la meringue. Donc à l'intérieur, mais juste à l'intérieur, juste dans le fond, vous laissez couler du chocolat fondu que vous avez fondu au micro-ondes ou à Marie.
Comme on souhaite, ouais.
Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre nid, il est fait déjà. On va passer à la mousse au chocolat. Pour ça, donc là, je vous ai donné d'autres recettes de mousse au chocolat. Là, on fait une mousse au chocolat un petit peu différente. Donc, on va prendre le chocolat. Alors, ou on le fait fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Si vous le faites au micro-ondes, faites attention à la puissance de votre micro-ondes. Donc, dans une casserole, ensuite, vous allez mettre le lait. Donc là, au bain-marie, le chocolat, il fond tranquillement. Et dans une autre casserole, vous allez mettre le lait. Vous allez verser le chocolat en remuant. D'accord ?
On verse le lait sur le chocolat ?
Non. On fait chauffer le lait et on... Oui, excuse-moi. Je dis n'importe quoi, là, je suis perdue. On verse le lait chaud sur le chocolat, mais on remue bien. C'est important parce que sinon, vous allez avoir des petits grumeaux et ça va être embêtant, surtout quand vous allez mettre en poche. Pour avoir une ganache un petit peu lisse et brillante. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez de côté et on va préparer la crème, fouetter la crème. Donc on la sort du frigo, du congélateur, on la met dans le saladier et avec un fouet, un batteur, vous allez monter votre chantilly. Voilà, vous mettez un petit peu de sucre si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est que votre chantilly, elle soit souple. Parce que cette chantilly-là, on va la mélanger à la ganache. Pour que au chocolat lait qu'on a fait, pour que vraiment ça soit très très léger et un petit peu mousseux, encore plus qu'une mousse au chocolat.
Ce sera encore plus mousseux ?
Oui.
Ah d'accord.
Et plus, alors léger, oui, par la texture, mais au niveau des hanches, non.
Ah oui, bah
voilà,
oui.
Hein, donc c'est quand même de la crème fraîche. Voilà, donc on mélange bien la préparation, donc délicatement. Toujours pareil, le chocolat, lait qu'on avait fait en ganache et puis la chantilly. Donc vous mélangez ça avec une maryse pour éviter de faire retomber votre chantilly. Ça serait quand même dommage. Mmh. Hein, et vous travaillez votre préparation en rond. Voilà, c'est vous racler le fond pour faire venir au milieu. Donc, vous versez votre mousse au chocolat dans une deuxième poche à douille. Donc, une douille pareil, hein, cannelée, ou vous pouvez la prendre lisse, mais cannelée, c'est plus joli. Ça épousera la même texture, la même forme que votre nid. Et puis, ben, vous pochez des petites boules. Vous voyez, des petites boules... Voilà, des boules tout simples sur chacune des meringues, hein, que ça fasse un nid. Voilà, et vous placez tout ça au frais pendant 30 minutes à 1 heure, parce qu'il faut que ça bloque. Et puis, une fois que, ben, au bout d'une heure, vous sortez, vous décorez d'œufs à la neige, d'œufs de chocolat ou des petits œufs de liqueur. Voilà, éclatez-vous, soyez créatifs et puis surtout régalez-vous. Voilà pour ces nids d'œufs. Voilà, mettez un petit peu de vermicelle, de couleur, que ça soit un peu gai. Vous avez aussi des petits sujets que vous pouvez acheter dans les magasins, des petits poussins, vous pouvez les rajouter dessus. Voilà, ça peut, c'est assez mignon, c'est sympa. Voilà, mais on a le temps de faire une pause, Théo.
Non, il nous reste 4 minutes. On peut peut-être faire une...
Mais, alors,
une autre façon de faire une meringue ?
Ben justement, moi je voulais vous proposer différentes sortes de meringues. Alors c'est mon bonus parce que on a trois sortes différentes de faire de la meringue. Donc on a l'usage qu'on a fait aujourd'hui, donc la meringue qui s'appelle la méthode de Suisse. Donc pour là, ben je vous ai dit la recette et je vous ai dit comment faire. Et ensuite on a donc on commence par la Suisse. Excuse-moi, je me suis trompée. C'est pas la Suisse qu'on a fait. Donc, on monte les blancs en neige et avec le sucre le sucre glace. On mélange les blancs en neige avec le sucre glace et on va le faire chauffer au bain-marie. Donc, une fois que les blancs sont battus, on met au bain-marie et on va faire mousser au maximum. Et on va incorporer le sucre glace petit à petit. Donc là, c'est essentiellement que du sucre glace. D'accord. Donc là, c'est une façon de faire. L'aspect, vous allez voir, donc faut vraiment que ça monte au maximum, hein, comme l'autre. Hein, sauf que là, on l'a fait au bain-marie. Une fois que vous avez incorporé le sucre, vous continuez à battre. Et lorsque le mélange prend la consistance, le battage est finalisé hors du feu. D'accord. Donc, quand vous commencez à que ça double et ça triple de volume, vous enlevez votre cul de poule du bain-marie et vous continuez à battre. Et là, vous allez avoir l'aspect fine et lisse et un brillant. Et vous cuisez, elles se cuisent donc une quinzaine de minutes au four. Un four chaud et aux alentours de 130 degrés.
Et
voilà.
Du coup, elle cuit plus vite.
Elle cuit plus vite, mais c'est par rapport à la consistance qu'on veut avoir.
Parce qu'elle est aussi pré-cuite plus
voilà.
ou moins.
Voilà. Donc sa consistance, elle est très ferme, moins friable que la préparation française qu'on a vu tout à l'heure, et elle permet d'utiliser, de confectionner des décors. Vous pouvez faire des signes, des petits champignons, voilà, ça sera une... C'est difficile de vous expliquer comment faire des signes et des champignons en meringue quand on n'a pas de visu.
Oui.
C'est très compliqué. Mais je vais y penser, hein, peut-être qu'un jour, je le ferai. Voilà, donc on poursuit par la française, mais c'est celle qu'on a utilisée. Donc tout à l'heure, donc je vous rappelle, on bat les blancs en neige avec le sucre semoule. Les blancs donc sont battus seuls dans un premier temps. Lorsque c'est mousseux, on rajoute le sucre petit à petit et on bat jusqu'à temps que ça soit ferme. Et là, ce type de meringue, on va les sécher. Donc, c'est la préparation qu'on a fait tout à l'heure. Donc, s'il faut les sécher, c'est 85 à 90 degrés pendant une heure. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire des petits sujets, mais ça va être plus ou moins croustillant. Si vous les laissez un petit peu plus longtemps, ça va être croustillant. Si vous les laissez moins longtemps, le cœur sera moins croustillant, ça sera plus moelleux.
Mmh.
Voilà. Donc, voilà pour ces meringues. Vous pouvez aussi les laisser légèrement un peu plus caraméliser si vous voulez. Vous pouvez les aromatiser. Alors, cette meringue-là, la meringue française, vous pouvez l'aromatiser de noix de coco, vous pouvez mettre du citron dedans. Donc, quand je parle du citron, c'est pas le jus de citron, c'est plus des zestes de citron. Vous pouvez l'aromatiser à la vanille, au chocolat, aux amandes effilées. Elle se conserve à peu près 2 semaines dans un endroit bien sec. Et puis, la dernière, c'est l'italienne. Elle se réalise en montant des blancs neige avec le sucre, cuit cette fois-ci. Le sucre, on va faire comme un sirop. Enfin, c'est pas un sirop, hein. On va mettre cuire le sucre en petits boulets. Donc, on met du sucre. Donc, c'est exactement la même recette de base. Sauf que le sucre, on va le mettre avec un petit peu d'eau pour qu'il y ait fasse comme un caramel, sauf qu'on appelle ça, il va cuire à 115 degrés, d'accord, dans une casserole, par contre, le sucre. Et on appelle ça le petit boulet. Donc moi, je le fais à la main, hein, je trempe mes mains dans l'eau froide et je trempe mes mains dans le sucre. Et si ça me fait un petit boulet, c'est que ma cuisson, elle est bonne. Je ne me sers pas de thermomètre, moi, j'ai appris comme ça. Donc, quand votre sirop, il est à 115 degrés, on va battre les œufs jusqu'à ce que ça mousse et on va verser tout doucement, en battant continuellement les œufs, le sirop, pas caramélisé, on ne peut pas appeler ça le petit boulet, sur vos œufs qui sont en neige. Mais il faut y aller tout doucement et plus sur les rebords de votre batteur. Voilà, donc vous évitez les éclaboussures parce que le sucre très chaud, c'est à 115 degrés, ça brûle. Croyez-en mon expérience. Donc l'appareil prend un aspect mousse un petit peu serré. Et puis à la finale, vous allez voir quelque chose de très brillant, bien compact et très léger malgré tout. Voilà, on sert de cette préparation comme des mousses pour les souffler par exemple ou pour mélanger avec une crème pâtissière, hein, que ça fasse une mousse assez sympa. Voilà, pour les tartes, pour entre autres les tartes au citron ou pour les omelettes norvégiennes. Voilà, ou alors encore la confection des guimauves. Voilà toutes les trois recettes de meringue que j'ai. Alors j'étais rapide dans une autre émission. Je détaillerai peut-être plus quand on fera.
On ira plus dans le détail.
On ira dans le détail quand on fera d'autres choses parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission.
Oui.
Et bon, bah, vous pourrez nous retrouver hein, comme d'habitude.
En podcast, ouais, sur le site Infini Radio, sur toutes les plateformes de podcast, voilà.
Voilà, et ben, alors surtout partager, refaire en famille, partager ces recettes, et pas que c'est une fête formidable. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Après le lundi de Pâques, ça tombe bien.
C'est ça.
On sera bien reposés, même heure, même jour.
Ouais.
Hein, mardi, et puis avec des nouvelles recettes aussi délicieuses et faciles à réaliser. On vous souhaite de joyeuses Pâques,
oui.
Un excellent appétit, une très belle soirée. Prenez soin de vous. Bonne soirée.
Bonne soirée.